15 secondes, ou je dis 15 minutes alors qu'en fait, il est pile 12h30. Bonjour Antoine.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Nous consacrerons une grande partie de cette édition à la crise algérienne. Les manifestations se poursuivent contre la cinquième candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Le président sortant, très diminué, n'a même pas été en mesure de déposer lui-même sa candidature au Conseil constitutionnel. Invité de ce journal, l'écrivain algérien Yasmina Kadra.
Il était en prison depuis 2013. Le photojournaliste égyptien Shaokan a couvert la répression sanglante d'une manifestation d'islamistes au Caire. Il a finalement été libéré ce matin, mais une liberté conditionnelle.
En Italie, la gauche a élu hier son nouveau leader. Il s'agit d'un ancien communiste, Nicola Zingaretti. Il a donc été choisi par les sympathisants du Parti démocrate italien pour prendre la tête du mouvement. C'est lui qui va donc affronter les populistes.
Dans l'actualité française, la crise des gilets jaunes modifie le calendrier du gouvernement. Les réformes législatives ont marqué le pas depuis décembre. La légalisation de la PMA pour toutes devrait être repoussée à 2020.
Midi 55, seconde partie de la grande table avec vous, Marie Richeux.
Et on recevra le philosophe Jean-Pierre Dupuis pour son essai sur la dissuasion nucléaire.
On vous retrouve dans 23 minutes. Le peuple algérien ne veut toujours pas entendre parler d'un cinquième mandat pour Abdelaziz Bouteflika. Il a cette nuit une fois de plus manifesté malgré l'engagement du président sortant, celui, s'il est élu, de ne pas terminer son mandat et d'organiser une présidentielle anticipée sans lui. Un message qui n'a pas convaincu la rue. À Alger, les précisions de la correspondante de RFI, Leïla Berato.
Dans la nuit, des manifestations ont eu lieu dans différentes villes du pays pour protester à nouveau contre un cinquième mandat et contre les autorités au pouvoir. Des centaines de personnes ont défilé dans le calme dans différentes villes d'Algérie alors que les manifestations nocturnes sont inédites dans le pays. Ce matin, alors qu'un appel à la grève générale a été lancé, la plus grande université du pays, celle de Bebzouar, qui accueille habituellement près de 40 000 étudiants, est presque déserte. Et des manifestations qui rassemblent des milliers d'autres étudiants ont lieu en ce moment, notamment à Béjaïa, Constantine, Annaba et Guelma. Les promesses d'une conférence nationale ouverte à l'opposition, d'une modification de la constitution et d'une élection présidentielle anticipée à laquelle Abdelaziz Bouteflika ne serait pas candidat ne semblent pas suffire à calmer la protestation. Parmi les raisons à cela, il y a le fait qu'une conférence nationale ouverte à l'opposition et qu'une réforme de la constitution, Abdelaziz Bouteflika l'a déjà fait après son élection de 2014. Et cette promesse de passer le flambeau aux jeunes, il l'avait également faite en 2012. Pour la presse, ces propositions de changement n'en sont pas vraiment et le quotidien El Khabar titre ce matin que le président ignore les manifestations et le refus d'un cinquième mandat. Le journal El Watan estime, lui, qu'Abdelaziz Bouteflika défie les Algériens.
Abdelaziz Bouteflika qui a déposé hier sa candidature au Conseil constitutionnel, ou plutôt son directeur de campagne. Le président sortant est en effet hospitalisé depuis maintenant une semaine en Suisse. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
L'absence physique d'Abdelaziz Bouteflika pourrait remettre en cause cette candidature.
Alors écoutez, c'est le journal Liberté Algérie qui monte au créneau sur la validité au nom du dépôt de candidature du président Bouteflika. Normalement, il serait prévu dans la Constitution que le candidat doive se présenter au Conseil constitutionnel pour déposer sa candidature. Or, dans le cas du président Bouteflika, vous l'avez dit, c'est son directeur de campagne qui a signé l'acte de candidature. Mais voilà, parmi les candidats qui se sont déclarés hier, il y a le militaire et ancien militaire Ali Guédiri. Lui s'est présenté au Conseil constitutionnel, mais c'est également son directeur de campagne qui a signé l'acte de candidature. Donc la question qui se pose, c'est de savoir ce que dit véritablement la Constitution sur la présence ou non du candidat au moment où il se déclare et qui doit signer le récépissé, le candidat ou son représentant. Et là, un doute plane. Selon l'agence de presse algérienne APS, qui est la voix du pouvoir, la présence physique du candidat n'est pas obligatoire. Et puis sur son site, le Conseil constitutionnel explique que le dossier de candidature doit être déposé par le candidat auprès du Conseil général, du Conseil constitutionnel, contre un accusé de réception. Mais rien ne précise si la présence physique du candidat est obligatoire ou non. De toute façon, vous savez, les dés sont jetés. Le Conseil a maintenant une dizaine de jours pour valider les candidatures pour l'élection présidentielle. Maintenant, on va être clair sur l'interprétation des textes. C'est le Conseil constitutionnel qui aura le dernier mot. Il faut savoir aussi que ce qui est valable en Algérie, il est aussi dans d'autres pays, y compris la France. Souvenez-vous des propos de l'ancien président du Conseil constitutionnel Roland Dumas en France, qui en 95 a validé les comptes de campagne de Jacques Chirac et Édouard Balladur, alors que ce même Conseil avait relevé des irrégularités. Roland Dumas expliquant plus tard qu'il ne voulait pas prendre le risque d'annuler une élection pour la stabilité du pays. Tout est dit.
Merci à vous, Nathanaël Charbonnier. Invité de ce journal, l'écrivain algérien Yasmina Kadra. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
En 2014, lors de la précédente candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un quatrième mandat, vous aviez parlé d'absurdité et de fuite en avant suicidaire. Alors, quels sont les mots qui vous viennent face à cette cinquième candidature?
Je crois qu'on peut peut-être apprivoiser un jour un crocodile, mais pas un imbécile. Donc ça continue, la mascarade continue. C'est la raison pour laquelle moi-même je m'étais présenté aux élections présidentielles il y a 4 ans, juste pour protester contre cette absurdité.
Et vous n'aviez pas réuni les signatures, hein?
Non. Non, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, tout le peuple algérien avait la tête dans le sable.
Question de Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale de Radio France.
Oui, comment qualifiez-vous le pouvoir en place aujourd'hui? Est-ce que c'est une dictature, une démocrature, un régime autoritaire? Il est assez difficile à définir ce régime finalement.
Moi je crois que c'est tout simplement de la voyoucratie. C'est une organisation crapuleuse qui a pris en otage tout un peuple. Voilà. Et aujourd'hui le peuple n'en veut plus.
Certains témoignages de jeunes parlent de mafia. Vous êtes d'accord avec ce terme-là?
Oui, même Feu Boudiaf l'avait dit, hein, la mafia financière, mais enfin, politico-financière. Elle a choqué beaucoup d'Algériens et aujourd'hui, les Algériens s'aperçoivent que finalement, être choqué ne doit pas suffire, il faut aller vers la conquête de sa liberté, de sa dignité. Et aujourd'hui, plus que jamais, on doit savoir que personne n'est libre s'il n'est pas digne.
Pour l'instant, la police et l'armée n'utilisent pas vraiment la force pour stopper les manifestations. Comment vous interprétez cette relative douceur, on peut mettre quelques guillemets? Est-ce que c'est une réelle volonté politique pour vous ou c'est plutôt une faiblesse du pouvoir actuel?
Ça n'a rien à voir, je crois que... D'ailleurs, j'aimerais bien que les forces de l'ordre s'abstiennent de faire du mal au peuple algérien. Il faut absolument qu'ils se démarquent de ces gouvernants qui n'ont jamais rien apporté de bon à l'Algérie. Donc, ils sont concernés, que ce soit les policiers, les militaires, les gendarmes, enfin, tous les fonctionnaires, tous les Algériens se doivent être concernés par ce qui se passe aujourd'hui. Il faut choisir entre peut-être l'espoir de voir ce pays renaître de ses cendres ou bien tout simplement aller droit dans le mur.
C'est-à-dire, vous pensez que la police ne tirerait pas si on lui demandait de tirer?
Je l'espère. En tout cas, ils n'ont pas intérêt parce qu'ils seront, un jour, ils seront lâchés par ces gens-là. Voilà. Parce que je crois que ceux qui essayent de provoquer la violence en Algérie ont déjà quelque part leur repli. Ils ont leur abri ailleurs. Donc, il suffit si peu du monde de laisser derrière eux un pays à feu et à sang. Mais les Algériens le savent. Et les policiers aussi. Donc, il faut vraiment qu'ils essayent d'être à la hauteur de ce défi.
La jeunesse, on l'a dit, est dans la rue, elle l'était encore hier soir. Est-ce qu'il y a des similitudes, ou pas du tout, avec le printemps arabe de 2011?
Oh, le printemps arabe, moi j'ai jamais aimé ce printemps-là, parce que je savais que l'été allait être assez éphémère, et l'hiver sera de retour. Moi je n'aime pas parler de printemps, je crois que la jeunesse... a compris qu'elle ne doit rien attendre de ses aînés, parce que nous avons été faillitaires, nous n'avons jamais été à la hauteur de nos engagements et nous avons résilié tous les serments. Donc cette jeunesse, elle croit en elle, elle veut une Algérie pour elle, elle veut la construire comme elle le veut, elle. Et je suis certain qu'elle ne baissera pas les bras.
Quelle est la part de traumatisme des élections de 92 dans la population algérienne? Est-ce qu'il y a une césure entre cette jeunesse et ceux qui ont vécu les événements de 1992 où on se souvient c'était l'annulation des élections législatives du deuxième tour pour éviter de donner le pouvoir aux islamistes? Est-ce que ce traumatisme-là, il a encore une résonance aujourd'hui?
Auprès de la jeunesse, non. Auprès de la jeunesse, c'est une jeunesse qui a toujours regardé devant elle, donc elle n'a pas de traumatisme à traîner derrière elle. Voilà, et c'est une jeunesse qui a compris quand même que le monde s'ouvre pour elle, le monde se fait pour elle. ce sont c'est l'ancienne génération qui essaie de trouver quelque chose, une espèce de parade au traumatisme d'hier, alors qu'ils ne font que les incarner tous les jours. C'est pour ça que c'est de notre faute à nous. Nous avons baissé les bras trop vite, nous avons été assez hypocrites pour oublier nos morts et pour choisir la tranquillité au détriment de l'avenir.
Dernière question, quel est le rôle de la France ou quel rôle peut jouer ou ne pas jouer la France dans ce qui se passe aujourd'hui en Algérie ?
Ah, je ne sais pas, la France, c'est un gros problème. C'est un gros problème et je préfère que la France soit du côté de la raison. Et la raison revient toujours au peuple.
Mais il y a d'autres soucis, notamment terroristes, où on est partagé. La France a besoin d'Algérie dans certains dossiers.
Ben oui, c'est un partenaire privilégié quand même. Tant que la France doit être du côté de ce qui est juste et le peuple ne tout ce que le peuple veut justement, c'est vivre en paix, dans la liberté, dans la dignité. Les Algériens détestent les islamistes comme c'est pas possible. Ils les détestent, ils les vomissent surtout la jeunesse aujourd'hui. Il faut vraiment aller en Algérie pour voir de quelle manière un barbu est perçu par des jeunes. C'est comme s'ils voyaient une espèce de diablotin assez ridicule qui est en train de chercher une tombe pour disparaître la terre. Voilà, c'est comme ça que les jeunes voient. Ils veulent tout simplement que ce peuple aille de l'avant et ils savent très bien que l'avenir leur appartient et pas à leurs aînés.
Merci beaucoup à vous, Yasmina Kadra, d'avoir accepté cette invitation dans le journal de France Culture. Il était en prison depuis 2013. Le photojournaliste égyptien Shaoukan avait couvert la répression sanglante d'une manifestation d'islamistes au Caire et il l'avait payé du prix de sa liberté. Shaoukan a finalement été libéré ce matin, mais une liberté conditionnelle. Au Caire, les précisions de Martin Roux.
La libération de Mahmoud Abou Zaïd alias Shaoukan était attendue en septembre à l'issue du procès de masse des manifestants de la place Rabat. Le photojournaliste avait alors été condamné à 5 ans de prison pour des accusations infondées de meurtre et appartenance aux frères musulmans. Il aurait dû être libéré sur le champ ayant déjà passé 5 années en détention provisoire. Mais aujourd'hui, c'est près de 6 mois après cette condamnation que Shaoukan quitte enfin la prison de Tora. Motif de ce délai avancé par les autorités, une amende impayée pour des dégradations estimées à des centaines de milliers d'euros lors des rassemblements de Rabat. Sur cette place de la banlieue du Caire, les soutiens de Mohamed Morsi réclamaient en 2013 le retour du président déchu. Le sit-in est ensuite démantelé dans le sang, plus de 800 personnes sont tuées et plus de 700 sont arrêtées, avec eux des journalistes dont Shaoukan, jeune photographe indépendant, il ne faisait que son métier. Prisonnier d'opinion, il a été détenu dans des conditions misérables, torturé et privé de soins. La prison de Tora était pour lui un cimetière, écrivait-il dans une lettre depuis sa cellule. Shaoukan en sort âgé de 32 ans, mais il n'est pas totalement libre. Placé sous contrôle judiciaire pour une période de 5 ans, il doit, pour l'heure, se rendre chaque soir dans un commissariat de police.
Carlos Ghosn a un nouvel avocat. L'ancien PDG de Renault est toujours en prison au Japon. Il est inculpé pour avoir minoré ses revenus, mais son nouveau défenseur s'est dit optimiste quant à une possibilité de libération sous caution. Il affirme avoir adopté une nouvelle stratégie de défense plus offensive. À Tokyo, la correspondance de Frédéric Charles.
Junichiro Hironaka est surnommé l'avocat des innocents. Il croit en l'innocence de son client, Carlos Ghosn, et son premier objectif est d'obtenir sa libération sous caution. Jusqu'à présent, deux premières demandes n'ont pas abouti. La troisième, dit-il, pourrait être la bonne. Sa détention, plus de 100 jours, a assez duré. Écoutez l'avocat.
Il y a 60 ans, à mes débuts d'avocat, une personne inculpée était libérée aussitôt sous caution dans l'attente de son procès. Mais les détentions sont devenues de plus en plus longues ces dernières décennies, jusqu'à 400 jours pour un homme politique influent.
Le nouvel avocat de Carlos Ghosn est un critique virulent du pouvoir excessif du parquet japonais.
Les procureurs mènent une justice de l'otage. Si vous n'avouez pas, vous restez en prison. Mais les libérations sous caution deviennent moins rares et j'espère que Carlos Ghosn sera libéré, car son procès sera long.
En attendant, la nouvelle équipe d'avocats de Carlos Ghosn se sert de sa notoriété pour médiatiser les dérives du système judiciaire japonais.
En Italie, la gauche a élu hier son nouveau leader. Il s'agit d'un ancien communiste, Nicola Zingaretti. Il a donc été choisi par les sympathisants du Parti démocrate italien pour prendre la tête du mouvement. Bonjour Olivier Tosseri.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Rome, c'est donc Nicola Zingaretti qui va affronter les populistes.
Exactement, avec un slogan, tournons la page, c'est celui de Nicola Zingaretti, nouveau secrétaire du Parti démocrate, son 7e en à peine 11 ans d'existence. Tourner la page de la défaite, c'est l'historique d'il y a tout juste un an lors des élections législatives. Tourner la page du rancisme, celle de la social-démocratie qui avait comme modèle la 3e voie de Tony Blair. Nicola Zingaretti a été élu avec près de 70% des voix dans le cadre de primaires qui ont remporté un succès bien supérieur à ses attentes. Près de 2 millions de sympathisants y ont participé, le double du seuil qu'il avait fixé pour conjurer un échec. Pour ses détracteurs, c'est le retour de la vieille gauche. Président de la région du Latium, il a commencé à faire de la politique à 20 ans dans les rangs de la jeunesse du Parti communiste. Un homme d'appareil qui se déclare chef d'une communauté et pas leader d'un parti. Il va pourtant devoir lui donner une ligne politique claire pour lutter contre l'ennemi désigné, la droite nationaliste et souverainiste qui dirige un gouvernement illibéral et dangereux. C'est ce qu'il a déclaré hier lors de son discours de victoire, sans nommer le mouvement 5 étoiles en perte de vitesse. Le premier test va vite arriver. Ce sont les élections européennes du mois de mai, celle de la dernière chance, a déclaré Nicola Zingaretti, pour son parti et pour son pays.
Merci Olivier Tosseri. Le consulat général des États-Unis à Jérusalem, qui est au service des Palestiniens, fusionne aujourd'hui avec la nouvelle ambassade américaine en Israël. Ça n'est pas une surprise, cela avait été annoncé en octobre par Washington et cette décision avait été vivement condamnée par l'autorité palestinienne. Les précisions de Marine Vlaovic, correspondante de RFI dans la région.
C'est une longue histoire qui s'achève aujourd'hui avec la fermeture du consulat général américain établi à Jérusalem depuis 1844. Cette mission diplomatique en charge de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza était devenue depuis le milieu des années 1990 une ambassade américaine officieuse auprès de l'autorité palestinienne. La consule générale, dont les fonctions prennent fin aujourd'hui, ne sera pas remplacée et la mission qui est transférée dans la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem devient un simple bureau des affaires palestiniennes sous le contrôle indirect de l'ambassadeur en Israël. Officiellement, il s'agit selon les États-Unis d'une simple question administrative, un prétexte rejeté par les Palestiniens. L'Organisation de libération de la Palestine dénonce une attaque politique en règle contre la solution à deux États. C'est aussi une étape de plus dans la dégradation des relations entre Washington et l'autorité palestinienne. Depuis la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël, tous les contacts diplomatiques sont officiellement gelés et les Palestiniens ne cessent de répéter que les Américains se sont disqualifiés de leur rôle historique de médiateur entre Israéliens et Palestiniens, alors que l'administration Trump affirme vouloir présenter son fameux deal du siècle, censé relancer un processus de paix en état de mort clinique, en avril prochain.
En Estonie, c'est le parti de centre-droit qui est arrivé en tête des législatives hier. La réforme totalise près de 29% des voix. Le parti de centre-gauche du Premier ministre sortant est en deuxième position avec 23%, devant l'extrême droite, 18%. La crise des gilets jaunes a quelque peu modifié le calendrier du gouvernement. Les réformes législatives ont marqué le pas depuis décembre et de nombreux dossiers ont été remis à plus tard, comme l'organisation de l'islam ou encore la loi audiovisuelle, mais aussi la légalisation de la PMA pour les femmes seules et les couples de lesbiennes. Bonjour Frédéric Seitz.
Bonjour.
On annonçait cette réforme pour cette année, mais elle pourrait être repoussée à 2020.
Oui, initialement, cette révision de la loi bioéthique était même prévue pour 2018. C'était à la fois une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, mais aussi une obligation légale, puisque la précédente loi bioéthique, votée en 2011, prévoyait un réexamen dans un délai maximal de 7 ans, soit donc en 2018. Mais l'affaire Benalla, au cœur de l'été, a décalé tout le calendrier parlementaire. Par ailleurs, les députés de la majorité sont divisés sur la PMA élargie à toutes les femmes, même si une large majorité de parlementaires macronistes y est favorable. Il est donc urgent d'attendre, ce sera pour 2019, a ensuite promis le gouvernement. Puis ce matin, le ministre chargé des relations avec le Parlement a une nouvelle fois ajourné l'examen du texte. Il passera devant l'hémicycle fin 2019, début 2020, explique Marc Fesneau, avant d'ajouter cette phrase « Et si ça déborde ?» Ça déborde. L'image n'est pas usurpée, Antoine, car le calendrier parlementaire est rempli à ras-bord. Ces prochains mois, la majorité doit voter la réforme de la justice en deuxième lecture, la loi dite anti-casseur en deuxième lecture aussi, ainsi que la loi qui pénalise le cyberharcèlement annoncé par Emmanuel Macron. Sont aussi au programme la réforme des retraites, la refonte de la loi de 1905, le texte sur l'audiovisuel. Et tout cela, c'est sans compter les éventuelles mesures législatives qui découleront du grand débat national. Mais l'aspect quantitatif n'explique pas tout. Plusieurs parlementaires de la majorité avancent aussi Le contexte pas favorable au débat sur la PMA, estime-t-il. Il ne faut pas rajouter de l'antagonisme à l'antagonisme, prévient par exemple Bruno Fuchs, député du MoDem. Selon lui, les mesures immédiates doivent répondre à la crise des gilets jaunes et donc aux problématiques de pouvoir d'achat et de démocratie. D'autres députés, eux, déplorent un manque de courage politique, à l'image de Laurence Vansenbrock-Mialon, l'élu macroniste de l'Allier, agacé d'avoir appris ce nouveau report, comme ses collègues, par la presse ce matin.
Merci Frédéric Seys. Trois ministres se déplacent aujourd'hui dans l'Eure, l'un des 13 départements choisis pour expérimenter le service national universel. Gabriel Attal, Geneviève Darrieussecq et Sébastien Lecornu qui vont lancer ainsi la campagne de recrutement des volontaires. Cette opération doit servir de test pour le SNU, promesse majeure du candidat Macron. Bonjour Bastien Roch.
Bonjour.
Comment cette campagne va-t-elle se dérouler?
Eh bien, pour commencer, il faudra parvenir à recruter de jeunes volontaires d'ici début avril. Ils devront être âgés de 16 ans en 2019 et avoir terminé leur année de 3e. Le gouvernement table sur 200 jeunes par département testé, soit au total près de 2500. Les préfets et recteurs auront la charge de gérer ce recrutement avec l'aide des centres de formation d'apprentis et des missions locales. Leur objectif, trouver une cohorte de volontaires aussi représentative que possible de leur département. Réunir des jeunes de la ruralité, des citadins, des élèves en seconde générale ou bien encore des apprentis, des décrocheurs scolaires ou même des jeunes en situation de handicap. Le SNU, Service National Universel, est prévu pour s'étendre à tous les jeunes d'une classe d'âge. Il faut donc éviter qu'une seule catégorie sociale ne participe à la phase de test.
Alors ça, c'est pour le recrutement, mais quand est-ce que leur service aura lieu?
Alors d'abord, du 16 au 28 juin prochain. Pendant 2 semaines, ces jeunes vont participer à un moment dit de cohésion en dehors de leur département d'origine. Ils auront droit à des ateliers autour des valeurs républicaines, une formation au premier secours, du sport ou encore des tests de français. Viendra ensuite une deuxième phase pendant l'été 2019 ou les vacances de la Toussaint. Là, les jeunes volontaires effectueront une mission d'intérêt général de 2 semaines encore, soit au sein d'une association, d'une collectivité ou bien encore d'un corps en uniforme. Enfin, une troisième phase facultative, celle-là est aussi prévue. Ceux qui le souhaitent pourront alors s'engager pendant une période de 3 à 12 mois, un peu à la manière du service civique tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Merci à vous Bastien Roch. Et une plateforme numérique est ouverte dès aujourd'hui pour permettre aux volontaires de s'inscrire. Les femmes parlent 2 fois moins que les hommes à la radio et à la télévision, toutes chaînes confondues. C'est ce que révèle un rapport de l'Institut National de l'Audiovisuel publié ce matin. Pour la première fois, l'INA a mesuré le temps de parole des femmes et des hommes dans les médias français grâce à une intelligence artificielle. 700 000 heures de programme analysées en tout depuis 2001. Bonjour Audrey Dumas.
Bonjour.
Malgré des progrès, les femmes sont donc toujours bien moins entendues.
Oui, les femmes représentent moins d'un tiers du temps de parole total. Pour les radios généralistes, c'est RFI qui s'en sort le mieux, avec seulement 33% de temps de parole. Les femmes sont carrément 2 fois moins présentes sur RMC. Il faut dire que la station diffuse beaucoup de sport, note le rapport. Et ce phénomène se retrouve à la télé. Les chaînes sportives comme Eurosport et L'Équipe sont celles où les femmes s'expriment le moins, mais elles sont davantage présentes sur des programmes qui leur sont destinés, comme sur Teva ou Chérie 25. La chaîne d'information France 24 se démarque tout de même, avec un temps de parole féminin de 45%. Et malgré ce triste constat, l'auteur de ce rapport, David Doucan, rappelle que ces inégalités se réduisent au fil des années.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2001, les hommes parlaient 3 fois plus que les femmes. En 2018, ils parlent 2 fois plus. Donc on est face à quelque chose qui change. Tous les ans, les femmes parlent 0,5% plus. C'est plutôt encourageant.
Les temps de parole ne sont qu'un indicateur, il y en a d'autres. Lors des heures de forte audience, par exemple, les écarts sont encore plus forts. Le chercheur Alina souligne également que l'on pourrait prendre en compte les sujets abordés par les femmes lors des émissions, mais aussi la contrainte économique d'une chaîne. Sachant que les femmes sont moins bien payées, avoir plus de femmes à l'antenne peut aussi être un choix économique, conclut-il.
Merci à vous Audrey Dumas, l'INA qui a mis à disposition toutes les données de l'étude sur la plateforme publique data.gouv.fr. On a appris la disparition du chanteur britannique Keith Flint, chanteur du groupe Prodigy. Il est décédé à l'âge de 49 ans. Cet après-midi, du vent, de la pluie sur les 3/4 du pays. Seul le sud-est échappera à ce temps chaotique, température homogène. Il fera 9 à Tours, 11 à Paris, 14 à Bordeaux, 17 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Stanislas Vazak.